VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du jeudi 13 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
À suivre dès le début de cette édition, le journal de la CAN avec Emmanuel Juntap.
Le Mali dénonce une violation de son espace aérien par un avion militaire français effectuant un vol Abidjan-Gao.
Un fondateur du groupe rebelle ADF a été arrêté au sud Kivu, loin de la zone où les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations dans l'est de la RDC.
Au Cameroun, le corps d'un sénateur de l'opposition a été retrouvé criblé de balles dans le nord-ouest anglophone où opèrent des séparatistes.
Le président américain Joe Biden participe ce jeudi au Sénat à une réunion des démocrates sur sa grande réforme électorale censée protéger l'accès au vote des Africains américains.
Voilà quelques-uns des titres de cette édition.
La Gambie écrit une page de son histoire de football en Afrique. Pour son premier match dans cette compétition, elle est venue à bout de la Mauritanie sur le score d'un but à zéro. La Côte d'Ivoire rassure, la Tunisie se fait surprendre par le Mali. De Yaoundé, le journal de la CAN, d'Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. Le groupe F a livré ses premiers résultats au terme des deux matchs disputés hier. La Tunisie a été battue par le Mali sur le score d'un but à zéro. Un résultat apprécié par les Maliens, même s'ils pensent, pour la plupart, que l'équipe doit redoubler d'ardeur.
Je suis très content, la mère, donc ils ont bien défendu. S'ils ont continué comme ça aussi, je pense bien nous allons prendre la coupe pour amener au Mali. Ça que j'ai beaucoup aimé, ça c'est la défense et puis attaque aussi.
Ça a été un match bien engagé. La seule chose qui nous a étonné, c'est l'arbitrage. C'est la première fois, ce qui s'est passé, c'est du jamais vu. L'erreur est certes humaine, mais cet arbitre-là, il a commis beaucoup d'erreurs. Le Mali est rentré timidement, ils ont dominé sans nous convaincre, mais on a de l'espoir, parce qu'ils ont une équipe vraiment très complète. Le banc de touche malien, il y a beaucoup de talent, elle est homogène, ils sont très physiques.
Les joueurs se sont débrouillés. Dans l'ensemble, ça va, mais côté individuel, on doit essayer d'améliorer ça. On doit être combattant derrière le ballon. Sinon, dans l'ensemble, ça va quand même.
Des propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. La Gambie n'a pas tremblé lors de son premier match de la CAN. Les Scorpions ont su conserver l'unique but de la rencontre, inscrit en première période face à la Mauritanie. Dans le dernier match du groupe E, à Japoma, à Douala, la Côte d'Ivoire s'est contentée d'une courte victoire, un but à zéro, face à la Guinée équatoriale. But inscrit par Max Gradel à la 5e minute de jeu. La première journée de la CAN s'est refermée sous le coup de sifflet également de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. La dernière manche de la première journée a aussi apporté son lot de particularités positives comme négatives. Le fait heureux est la qualité de jeu produite par les néophytes gambiens et mauritaniens dans une rencontre qui révèle au grand jour les progrès réalisés dans la région autour de la dynamique sportive positive provoquée au Sénégal voisin avec une politique de formation tout azimut tournée vers l'exportation de talents en herbe. Mais nous avons eu droit à une rencontre d'un niveau de phase finale de la CAN. Le score d'un but à zéro au profit de la Gambie restant anecdotique, même si certains peuvent parler d'exploit pour un pays qui 10 jours auparavant comptait encore 15 indisponibles sanitaires dans son effectif. Le fait malheureux nous est venu de Limbé, en zone anglophone, où le raté du jour n'est pas lié au contexte sécuritaire tant redouté, mais plutôt à une maladresse arbitrale pour une fin de match précocement sifflée au détriment d'une équipe tunisienne frustrée car battue par le Mali contre le cours du jeu. Cette maladresse qui relève de la compétence de la CAF ne saurait remettre en cause la qualité organisationnelle du tournoi observée jusque-là. En dernière heure, la Côte d'Ivoire a logiquement battu la Guinée équatoriale par le même score étriqué d'un but à zéro qui confirme l'évidence. Il n'y a plus de petites équipes. Cet après-midi commence la deuxième journée dans le groupe A, où le Cameroun peut directement se qualifier en battant l'Éthiopie, mais on attend également de lui qu'il soigne la manière. Pour le Burkina Faso, c'est le match du rachat à gagner à tout prix contre un Cap-Vert que nul satisferait. Comme on le voit, l'heure des résultats impératifs a sonné, mais aussi des matchs plus intensifs malgré la canicule ambiante. À bientôt.
Ce jeudi, la poule A reprend du service. Cameroun, Éthiopie et Burkina Faso, Cap-Vert sont à l'affiche. Le Cameroun veut confirmer sa belle entame du tournoi, selon le milieu défensif camerounais Samuel Umgwit.
On va sur les mêmes bases que la première journée, c'est-à-dire nous allons jouer cette rencontre dans l'objectif de ramener les 3 points. C'est le plus important, garder notre état d'esprit, notre fighting spirit, aller à la conquête des 3 points.
Le Cap-Vert, avec son effectif au complet, et le Burkina Faso, sans son capitaine Bertrand Traoré, test positif au Covid-19, s'explique au stade Olembe. L'attaquant Ryan Mendes du Cap-Vert s'attend à une partie difficile.
Toutes les équipes veulent gagner et tous les matchs c'est compliqué. Aujourd'hui on a 3 points, on va essayer de faire le mieux possible contre le Burkina. Mais je pense que si on attend notre objectif premier, c'est de passer la phase de groupe. Après on verra match par match quoi. Mais j'espère qu'on pourra faire mieux qu'en Afrique du Sud. Ouais.
C'est tout pour le journal de la CAN. Siaka Traoré, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la junte au pouvoir a condamné hier et dénoncé auprès des autorités françaises ce qu'elle a appelé hier une violation claire de son espace aérien par un avion militaire français effectuant mardi un vol entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Gao dans le nord du Mali. Elle a mis en garde contre d'éventuelles conséquences en cas de nouvelles violations, notant dans un communiqué que la France a, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO, parmi lesquels figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali.
La France, engagée militairement au Mali et au Sahel, mais aussi la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, effectue constamment des vols entre la sous-région et le Mali pour l'approvisionnement et les opérations. Une source militaire française à Paris a déclaré à l'AFP que toutes les procédures ont été respectées. L'avion a déposé un plan de vol qui a été approuvé par les autorités maliennes et, comme le veut la procédure, suivie à chaque fois à l'entrée de l'espace aérien malien, on bascule le transpondeur en mode de fonctionnement militaire. Pour nous, il n'y a pas de sujet à ajouter, la même source.
En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé l'arrestation de l'un des fondateurs du groupe rebelle des ADF, Forces démocratiques alliées. Sa capture est intervenue dans le sud Kivu, bien loin de la zone où opère ce groupe rebelle d'origine ougandaise. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Benjamin Kisoke-Ragno, officiellement chef du renseignement des ADF jusqu'en 2019 et proche de l'ancien chef des ADF Djamil Mukulu, a été arrêté mardi dans la région d'Uvira au sud Kivu, près de la frontière avec le Burundi. Il était porteur d'un passeport congolais, a déclaré un haut responsable militaire congolais sous couvert d'anonymat. L'arrestation du haut responsable des forces démocratiques alliées a eu lieu en dehors de la zone où les forces ougandaises et congolaises mènent des opérations. Selon Kampala, il était en charge du renseignement, des finances et de la logistique des ADF, le plus meurtrier des groupes armés opérant dans le nord Kivu, particulièrement dans le territoire de Beni. Ce groupe est accusé de milliers de meurtres et d'enlèvements dans la région et pour les récents attentats à la bombe en Ouganda. Les armées congolaises et ougandaises ont lancé le 30 novembre une opération conjointe contre les positions des rebelles ADF.
Une centaine de Rwandais sont arrivés ces derniers jours en République démocratique du Congo en affirmant fuir la vaccination contre le Covid-19, souvent obligatoire dans leur pays, a-t-on appris hier de sources locales. Ils sont venus par petits groupes en pirogue dans le sud de l'île d'Idjoui, située sur le lac Kivu, frontalier du Rwanda et de la RDC, où les autorités cherchent toutefois à identifier formellement leur profil et les raisons de leur venue.
Au Cameroun, le corps d'un sénateur de l'opposition a été retrouvé criblé de balles hier dans le nord-ouest du pays, une région en proie à un conflit entre séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Le point avec Nanit Talani.
L'avocat Henri Kamindé, sénateur du Social Democratic Front, le SDF, un des principaux partis de l'opposition, a été tué par des gens armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, a annoncé hier un responsable local du ministère de la Communication. On a retrouvé son corps, la poitrine criblée de balles, a confirmé Joshua aussi, vice-président du SDF, ajoutant que le véhicule à bord duquel l'élu se trouvait a aussi disparu. Monsieur aussi suppose que c'est l'œuvre des Ambazoniens, les groupes séparatistes qui réclament l'indépendance des deux régions qu'ils ont surnommées Ambazonie. Il estime qu'ils en veulent au SDF car le parti de John Frundi, majoritairement anglophone, participe aux institutions et s'oppose à une partition du Cameroun. Depuis 5 ans, des ONG et l'ONU blâment régulièrement les séparatistes et l'armée pour des crimes et atrocités visant des civils.
Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à une affaire comme au Tigré, a déclaré le...
Dans le sud-est de la République centrafricaine, plus de 4 800 personnes sont sans abri ou sinistrées après un incendie mardi qui a détruit un camp de déplacés et fait 20 blessés à Lindao, à 500 km à l'est de Bangui. L'incendie s'est déclaré après qu'un enfant a essayé de cuisiner avec de l'huile de palme, a déclaré Philomène Daounda, préfète de la région de la Basse-Côte.
Maintenant avec Eric Manirakidza, le blocus de l'aide humanitaire vers la région du Tigré fait vivre à la population un véritable enfer unique au monde. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de l'OMS qui dénonce une insulte à l'humanité. Donc maintenant, Eric Manirakidza.
Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigré, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui-même originaire du Tigré. C'est tellement épouvantable et inimaginable au XXIe siècle qu'un gouvernement refuse à son propre peuple, depuis plus d'un an, l'accès à la nourriture, aux médicaments et à tout ce qu'il faut pour survivre, a-t-il ajouté, réclamant une résolution politique et pacifique du conflit. L'OMS n'a pas été autorisée à acheminer des médicaments et du matériel médical au Tigré depuis la mi-juillet de l'année dernière, malgré ses demandes répétées. Le conflit a fait des milliers de morts et la région, soumise selon l'ONU à un blocus de facto de l'aide humanitaire, manque de nourriture et de médicaments. La semaine dernière, le gouvernement éthiopien a annoncé l'amnistie et la libération de plusieurs personnalités politiques incarcérées, dont des dirigeants de l'opposition et du TPLF, une mesure saluée par les Nations Unies et l'Union africaine.
Le Nigeria a annoncé hier soir la levée de la suspension frappant Twitter depuis 7 mois dans ce pays où le réseau social américain, qui aurait accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, a été un important outil de contestation sociale. Sa suspension était intervenue 2 jours après qu'il a supprimé un message du président Muhammadu Buhari menaçant de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences dans le sud-est du Nigeria, une allusion à des séparatistes Igbo.
Le président américain Joe Biden doit participer aujourd'hui à une réunion des démocrates au Sénat pour tenter de faire adopter sa grande réforme électorale censée protéger l'accès au vote des Africains américains. Claire Morin-Gibourg.
Le président Joe Biden doit participer en personne aujourd'hui au déjeuner des démocrates au Sénat pour discuter de la stratégie pour faire passer ses lois sur le vote et d'un potentiel changement des règles au Sénat. Déjà adoptées à la Chambre des représentants, 2 lois censées protéger l'accès au vote des minorités sont bloquées au Sénat où la majorité démocrate est bien trop courte pour que ces lois soient adoptées. À moins d'une réforme des règles de la Chambre haute, ce que Joe Biden brandit comme une menace. La première loi veut rendre le jour de l'élection férié et élargir le vote par correspondance. Les démocrates souhaitent coupler cette première loi à une autre, nommée en hommage à John Lewis, icône des droits civiques. Celle-ci interdit l'adoption de toute règle qui aura pour conséquence de limiter l'accès au vote d'un groupe minoritaire. Les Républicains s'opposent farouchement à ces deux lois qui ne sont qu'une tentative pour les démocrates de prendre le contrôle des élections, selon Mitch McConnell, leader républicain du Sénat.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À la gare de Beaumarchais à Dakar, capitale du Sénégal, les passagers qui voulaient se rendre au Mali ont exprimé leur colère suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Malgré la fermeture des frontières, de nombreux passagers avaient déjà pris leur billet pour se rendre au Mali. Leur réaction dans ce reportage de Nama Diarra, notre correspondant à Dakar.
Mais les CEDEAO aussi ferment les frontières. Il y a des Maliens qui ont quitté l'autre pays, ils vont rentrer au Mali. Tu les laisses rentrer, mais les Maliens ne rentrent pas au Mali. Maintenant, est-ce que vous donnez les nourritures des gens qui sont à la frontière? Ça, c'est pas normal.
Abdoulaye Maïga est un transporteur malien à la gare de Beaumarchais à Dakar. Il est vraiment en colère contre la CEDEAO. Beaucoup de ses passagers sont bloqués à la frontière entre le Sénégal et le Mali à cause des sanctions. En retour, le Mali a aussi fermé ses frontières avec les pays de la CEDEAO. Personne ne peut entrer au Sénégal et personne ne peut sortir du Mali. De nombreux bus sont bloqués à la gare de Beaumarchais avec des centaines de passagers, dont Souleymane Bellem, confortablement assis en attendant un départ incertain.
Moi, je suis burkinabé. J'ai mon parent au Burkina. Toi, tu dis que c'est pas la peine, je vais traverser Mali pour aller au Burkina. Et mon parent qui sont au Burkina. C'est normal là, ça. Mali et Sénégal, là, c'est la même chose. S'il n'y a pas ton parent au Mali, il y a ta mère ici ou il y a ton père là-bas. Toi, tu dis que je reste chez mon père, je ne peux pas partir voir ma mère. Ça peut faire. Même les CEDEAO qui sont parlés, qui ont sorti leur degré là. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Sinon, si quelqu'un qui a des parents, il ne doit pas dire ça même.
Samba, alias Fodé Makalou, un passager sénégalais, abonde dans le même sens, tout en demandant des négociations avec le Mali au lieu de fermer les frontières.
Entre Mali et Sénégal, ça peut arriver, mais entre nous, nous sommes des frères, ça, il ne fallait pas fermer entre les frontières, entre nous deux. On peut s'arranger, il ne fallait pas fermer, franchement. Moi, je suis origine malien, mes grands-parents, ça vient de Mali.
Les frontières là sont fermées à cause de la sanction de la CEDEAO et vous partez au Mali?
Il ne fallait pas fermer, il fallait négocier. Ça va déranger les Sénégalais, ça va déranger les Maliens. Il ne fallait pas ça faire entre nous.
Le Malien Mohamed dit qu'on ne voyage pas, mais est venu accompagner son épouse qui devait partir au Mali. Il ne cache pas sa colère face à la fermeture des frontières.
Vraiment très mal, ça fait très mal. Aujourd'hui, même si je ne voyage pas comme ma famille est là, ils voyagent, ils vont au Mali vraiment. On a des difficultés aujourd'hui peut-être de rentrer au Mali ou bien de Sénégalais. Les Maliens qui sont au Sénégal, ils rentrent au Sénégal aussi la même chose. Donc ils ne devraient pas fermer les frontières. Nous, on demande au président de la République du Sénégal, en tant que pays de la Teranga, de vraiment ouvrir la frontière entre ces deux pays.
Malgré la fermeture des frontières, les passagers et les transporteurs ont donc décidé de voyager entre le Mali et le Sénégal comme si rien n'était. La route est devenue bien toute fortueuse entre Kay et Bamako. C'est comme un parcours du combattant que de vouloir traverser la frontière entre le Mali et le Sénégal. Nama Diarra, Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'exportation des produits guinéens vers les États-Unis est affectée depuis le 2 janvier. Le pays est exclu du programme AGOA pour non-respect des statuts de l'accord. Comment la Guinée vit-elle cette situation? Le point avec notre correspondant Okonakri Zakaria Camara.
C'est l'une des conséquences du changement anticonstitutionnel en Guinée. Les produits guinéens ne peuvent plus bénéficier de réduction de taxes à l'exportation vers les États-Unis. Cela aura un impact économique, nous explique Mohamed Kaloko, directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations.
Contrairement à l'AGOA, il y a un taux de franchise qui va être un peu plus élevé qu'AGOA, parce qu'AGOA, le taux de franchise est zéro. Le système généralisé, c'est à partir de 5%. Surtout le textile guinéen qui va être impacté, et c'est un produit qui est très très prisé sur le marché américain. Ça va être un taux de franchise d'au moins 35%. Donc vous comprendrez bien que ça a un impact.
Parmi les secteurs impactés, le textile local, Bintou Grovogui, teinturière, perdrait plus de 150 millions de francs guinéens, soit 1 600 dollars sur chaque 6 mois.
AGOA a été une très grande opportunité pour beaucoup de pays, dont la Guinée. Dire aujourd'hui que nous sommes exclus, ça nous réduit beaucoup, beaucoup nos ventes, nos opportunités. Mais comme c'est la situation politique, on n'y peut rien, on s'y plie. Mais bon, c'est à contre-cœur, quoi, puisque ça va impacter négativement nos affaires.
La Guinée exporte aussi d'autres produits ailleurs. Et pour l'économiste Mohamed Camara, la sortie de la Guinée de l'AGOA aura un faible impact économique.
Nos exportations sont essentiellement les produits miniers. Quand tu prends les produits agricoles et artisanaux, c'est moins de 4% des exportations de la Guinée. Et surtout, ces pays-là, ces produits ne sont pas surtout destinés aux États-Unis. L'impact n'est pas aussi grand si on prend en termes financiers, parce que ceux qui étaient éligibles au programme n'étaient pas aussi nombreux que cela. Les gros produits agricoles que nous exportons, comme le caoutchouc, le café et autres, ont d'autres clients.
La Guinée, grand pays exportateur de minerais, vend sa bauxite et son alumine aux pays de l'Asie, dont la Chine. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, le général Mahamad Idriss Déby, président de la transition, a annulé un acte qu'il avait lui-même signé le 31 décembre 2021, nommant plusieurs personnalités à des postes de commandement. Le décret en question a été vertement critiqué par les énarques formés à l'École nationale d'administration qui se sentent lésés dans leurs droits et une partie de l'opinion qui qualifie ces nominations de ridicules. Reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Quand il y a un projet de nomination au ministère de l'administration du territoire, tous nos hommes politiques envoient ces militants là-bas pour demander des postes au détriment des agents du ministère de l'administration du territoire et des énarques formés dans une grande école de renommée comme l'ENA.
C'est le cri de cœur des énarques intégrés et mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire. Ils dénoncent sous l'anonymat ces décrets nommant des gens non qualifiés à des postes de commandement et interpellent le chef de la junte militaire signataire du dit document.
Nous disons unanimement. Non, nos droits sont bafoués. Il faudrait que ces gens-là changent, ils cessent avec leurs pratiques malsaines. On a écrit même au ministre de l'administration du territoire plus de 3 fois. Il a demandé la liste des énarques à 3 reprises. Le décret passe, on voit aucun énarque n'est nommé. Et nous disons au président du CMT de prendre l'affaire-là dans sa main.
Aujourd'hui, vous allez trouver les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, ce sont des militaires. S'ils veulent à ce que ces ministères deviennent le ministère de défense, ils n'ont qu'à nous dire. Nous allons quitter, aller ailleurs pour laisser ce ministère là aux militaires. On ne veut pas travailler dans cette condition.
Le mécontentement des énarques semble être entendu par les autorités de transition. 9 jours après la publication de ce décret contesté, le président du conseil militaire de transition recule. Il a annulé purement et simplement son acte. Pour Soustaine Bernoudi, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, que le Tchad soit gouverné autrement.
Le comble, c'est que quand vous lisez la liste, vous ne trouvez que des noms qui ont une consonance d'une région. C'est toute cette félonie là qui a amener le pays à l'enlisement. Aujourd'hui, on est en train de vouloir aller au dialogue. Il va falloir qu'on essaye de laisser les mauvaises habitudes qui fâchent. Parce qu'au travers de ce décret, on remarque qu'on fait la promotion des gens incompétents et ça réconforte nous, partisans du fédéralisme, dans notre posture. Parce que après 30 ans d'expérience d'un État unitaire décentralisé, c'est complètement un échec avec ces gens de nomination. Maintenant, il faut la fédération comme solution pour résoudre définitivement ce problème.
Les juristes estiment que ce décret ne devrait pas être pris puisque le poste des sous-préfet a été supprimé en 2018.
En principe, dans un pays normal, le premier ministre aurait démissionné, ou on devait le faire démissionner, parce que c'est très grave, n'est-ce pas, de faire signer un décret avec aucun objet. Et c'est dommage pour l'administration qui, finalement, est tellement légère.
Docteur Sitak Yombatina Beni, ancien chercheur à l'ENA, l'École nationale d'administration.
Dans les ordonnances qui régissent, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées, il faut une loi. À ce jour, il n'y a pas une loi qui a créé ces unités administratives. Et donc, tant vous n'avez pas créé, n'est-ce pas, les unités administratives par une loi, vous ne pouvez pas nommer des gens. Donc, que cela échappe à toute une administration. Depuis le ministère de l'administration jusqu'à la présidence de la République. Et c'est plus tard qu'on se rend compte finalement que ce décret n'aurait jamais dû exister. C'est pour ça qu'on l'annule. L'administration ne peut pas dire que j'ai fait des erreurs. Non. Et donc maintenant, ceux qui se sentent lésés, n'est-ce pas, par rapport à cet acte-là, à eux, n'est-ce pas, de saisir les juridictions compétentes pour justement rentrer dans leurs droits.
Pour beaucoup, ce décret remet en cause la note circulaire du premier ministre de transition selon laquelle, dorénavant, toute proposition de nomination doit obéir à des critères de compétence, d'expérience et d'équité. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Enfin, dans les sociétés patriarcales, comme au Burkina Faso, les épouses sont souvent blâmées en cas de problème dans le couple. Pour permettre une meilleure compréhension entre époux, un projet original, financé par la Banque mondiale, enseigne aux hommes comment être de meilleurs maris. Le reportage d'Henry Wilkins à Yako, dans la province de Passoré, est relaté par Nathalie Barge.
Le chemin vers un mariage réussi n'est pas toujours facile, mais une initiative mise en place au Burkina Faso par le programme d'autonomisation des femmes du Sahel vise à le rendre moins difficile. Yele Wigo, qui est mariée à Kouama Zupoka, a fréquenté les écoles des maris organisées par Swed pour l'aider à devenir un meilleur époux.
Avant de suivre les cours, la vie de couple n'était pas facile. Je pensais autrefois que les femmes et les hommes n'avaient pas grand-chose en commun lorsqu'il s'agissait de problèmes de vie de famille. Mais après les cours, j'ai compris qu'ils peuvent se compléter et s'entraider.
Ces cours comprennent des jeux de rôle pour aider les hommes à comprendre les besoins de leur compagne et comment y répondre, par exemple aider aux travaux ménagers. Ils enseignent aussi les droits des femmes, la planification familiale, la santé et l'hygiène. Et les hommes sont encouragés à inclure les femmes dans la prise de décision familiale. La coordinatrice du projet de l'association pour la promotion de la femme et de l'enfant dans la région de Yako, Nabalou Bibata, dit que ces cours sont très utiles à la communauté.
Il y a des hommes même qui ont assisté à l'accouchement de leur femme. Et il y a aussi la prise en charge des soins des enfants. Et au sein du village, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer aux animations de l'école des maris, et les membres des écoles des maris sont devenus des modèles.
Des projets similaires ont déjà été mis en œuvre dans d'autres pays comme en Afrique du Sud et au Niger. Edouard Ouagéni, responsable de l'initiative He for She d'ONU Femmes, pense que ces cours peuvent contribuer à réduire les incidents de violence domestique.
C'est la reconnaissance que l'égalité des genres ne concerne pas seulement les femmes et les filles. L'égalité des genres concerne tout le monde.
Ces écoles des maris pourraient-elles être bénéfiques sur d'autres continents, notamment dans les pays occidentaux où l'égalité des genres est plus ancrée dans la société?
C'est une bonne idée qui peut être reproduite et même étendue dans d'autres parties du monde, y compris les pays qui estiment avoir fait beaucoup de gains.
Kouama Zupoka, agricultrice, souligne que les cours ont rendu son mari beaucoup plus avenant.
L'amour entre nous grandit. Maintenant, quand mon mari va au marché, il me rapporte des petits cadeaux, ce qu'il ne faisait pas avant. Alors, je suis très satisfaite.
Fort de son succès, le projet d'école pour les maris va être étendu à d'autres régions du Burkina Faso. La deuxième phase du programme devrait démarrer plus tard cette année.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.